Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour et bienvenue dans cette émission préparée par Laure Grand Besançon et Marie Blanc, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Jean-Baptiste Audibert. Aujourd'hui à la technique, Grégory Wallon. La gourmandise de ce matin, c'est la trouvaille d'un esprit délicieusement malade qui est celui de Roland Topor. Dans son roman de 1964, Le locataire chimérique, formidablement adapté à l'écran par Polanski, le narrateur emménage dans un immeuble dans lequel chaque voisin ressemble à un ennemi. Il apprend vite que la locataire précédente s'est défenestrée et il sombre lentement dans une paranoïa effrayante puisqu'elle revêt de nombreux aspects de la lucidité. Si des enfants écoutent que les adultes protègent leurs oreilles innocentes car il se peut que ceux qui suivent les effraient, à un moment, le locataire aperçoit un bout de coton dépassé de son mur. Il tire dessus et se trouve face à un trou qui semble abriter un objet. L'homme y colle son œil, puis y aventure l'un de ses doigts. Il sort du mur une chose pointue, de couleur ivoire, une dent. La trouvaille ne sert pas vraiment l'intrigue, elle participe simplement de façon souveraine à l'inquiétante étrangeté qui émane du récit, et certains d'entre vous pourront trouver sordide son statut de gourmandise. Mais ce détail, qui possède une puissance d'évocation démentielle, illustre parfaitement l'adjectif présent dans le titre du roman, chimérique. Nous sommes dans le pur produit de l'imagination, et en cela réside la beauté. J'ai le bourlingage atavique, affirme notre apothicaire de l'âme dont le corps a sillonné de multiples territoires. Une naissance à Rennes, puis les 14 premières années de sa vie à Alger, où naît, lorsqu'elle a 8 ans, son désir d'écriture. Lors d'un été en Bretagne, dans sa famille maternelle, ses parents l'informent qu'ils ne retourneront pas en Algérie. Ils craignent le début des violences dans le pays. Notre apothicaire expérimente alors le déracinement qui émaillera son œuvre. Elle passe son adolescence à Paris, Zurich et Abu Dhabi, puis revient à Paris après son baccalauréat pour étudier la philosophie et le droit. Enfant, je me murais. Mon mur est tombé à l'âge de 18 ans. J'ai écrit pour parler, déclare la poétesse à l'écriture charnelle qui envisagea un temps une carrière dans le tennis. En 1991, elle publie son premier roman, La voyageuse interdite. Elle continue d'admirer Duras, qu'elle rencontre à 25 ans. Elle ne cessera plus d'écrire et développera une œuvre délicate et brutale, tissée d'autant de vitalité que de fantômes. Bonjour Nina Bouraoui.
Bonjour, c'est La voyageuse interdite, c'est pas grave.
Que j'ai dit.
Voyageuse.
Et vous voyez, j'ai fait un lapsus, puisqu'au début, j'ai commencé par parler de vos voyages, et j'ai bien écrit La voyeuse interdite. Je suis désolée.
Mais non.
Je commence par une erreur.
Mais non, c'est drôle. Bon.
Alors là, je suis plongée dans une extrême mélancolie et je suis confuse, mais vous,
pas du tout.
Nina Bouraoui, quel est votre rapport à la mélancolie ? J'ai lu plusieurs interviews de vous pour préparer l'émission, et vous parlez beaucoup des peurs de votre enfance, qui ont été des fardeaux dont vous avez mis beaucoup de temps à vous séparer. Vous dites que vous avez traîné des angoisses et que vous avez négocié avec vous-même grâce à l'écriture.
Oui, c'est vrai. Moi, j'ai eu des angoisses très jeunes, existentielles. Enfant, j'étais très hantée par la mort. Alors, quand on est enfant, on a à la fois très peur de la mort et on se croit immortel. Et puis, j'ai vécu un séisme en Algérie dans les années 80, juste avant de partir, en fait, à Paris. Et j'ai compris que je n'étais pas immortelle. Et ça m'a plongée dans un état d'inquiétude perpétuelle. Je pense que à l'époque, j'aurais peut-être dû consulter. Mais ça m'a donné... Vous savez, quand on vit un tremblement de terre, on apprend le déséquilibre de la terre et donc du corps. Et j'ai toujours été un peu comme ça, dans une sorte de vertige existentiel, mais qui me plaît parce que moi, j'ai apprivoisé la mélancolie. Elle est devenue une mélancolie heureuse, joyeuse. La mélancolie, c'est le tréfonds aussi de soi. Et à l'intérieur de soi, on peut trouver souvent des joyaux. Et c'est vrai que l'écriture a été comme un baume hein, sur mes angoisses. Alors, j'ai écrit tout un livre d'angoisses, mes mauvaises pensées.
Qui était sur les... d'une dépression.
Pas vraiment une dépression. Enfin, peut-être que ça avait... des aspects de la dépression, mais je suis pas du tout quelqu'un de dépressif. Mais en revanche, lorsque j'ai entamé un travail thérapeutique, j'ai rencontré à nouveau mes peurs d'enfant. Enfant, j'avais pas mal de TOC, de troubles obsessionnels compulsifs.
Ce sont des sortes de conjurations de l'angoisse.
Oui, total, conjuration du mauvais sort. Hein. Je crois qu'il y a un livre qui s'appelle ainsi. Et donc j'avais, oui. Je pouvais éteindre, allumer la lumière, mais 100 fois, 500 fois, 1000 fois, c'était très compliqué. Et j'avais des parcours, il fallait marcher sur un côté du trottoir et pas l'autre, il fallait toucher du bois 100 000 fois. Donc j'étais beaucoup hantée par ça, parce que je pense que j'étais un enfant un peu enfermé de l'intérieur. J'avais une intimité toujours choisie, c'est-à-dire celle de ma famille. Sinon, j'avais peur de l'autre, vraiment. J'avais un meilleur ami, ça il a traversé toute mon enfance, c'était mon double qui réapparaît dans...
Dans votre dernier roman, Tous les hommes,
et notamment
Désir naturellement savoir.
Dans le dernier. Mais sinon, j'étais très sauvage. Je pense que j'étais déjà un écrivain, c'est-à-dire que je pratiquais le repli sur moi-même. Et j'étais plutôt, j'étais une cérébrale, alors que le tennis m'a sauvée aussi.
Alors, je voudrais rebondir sur une chose qui est très présente dans Tous les hommes désirent naturellement savoir, Nina Bouraoui, c'est qu'il y a l'idée de dans ce roman de payer pour le bonheur. Il y a une culpabilité, je me sens coupable mais j'ignore la nature de ma faute. La narratrice, ou c'est un roman autobiographique peut-être, je ne sais pas comment le définir, la narratrice s'interdit d'être heureuse.
Oui, mais moi je crois que j'ai souffert, mon homosexualité a été très lente à apprivoiser, à accepter, à assumer. Non pas que j'ai eu un jugement sévère vis-à-vis de moi-même. J'avais pas cette morale-là. D'ailleurs, il ne s'agit pas de morale. Mais adolescente, je me suis sentie très vite exclue de ma jeunesse. J'étais beaucoup plus adulte que les autres parce que j'étais différente, que mon désir était différent, que mes histoires d'amour étaient différentes. Et qu'à force de confondre la tendresse avec le désir, l'amitié avec l'amour, à force d'aller de déception en déception, je crois que... Oui, la culpabilité, je me sentais coupable d'être ainsi. Je dis souvent que j'ai souffert de ma propre homophobie, mais comme tous les homosexuels de la Terre, hélas, cette homophobie, elle est inoculée par le regard de l'autre, inoculée par une société qui ne parle jamais de vous, inoculée par une société qui ne vous représente pas. Et je parle de tout, des arts, de la publicité. Je crois que nous manquons encore de femmes homosexuelles qui écrivent, qui font des films. C'est très important. Je veux dire, les armes, lorsqu'on est adolescent, qui servent à vous défendre du rejet, sont souvent culturelles et artistiques. Et je crois que ça, c'est une mission aussi. Je crois que les artistes homosexuels ont cette mission d'aider les jeunes. Et c'est vrai que oui, le désir est devenu une chose coupable et puis après une chose plutôt délicieuse parce qu'avec les années, on s'apaise, on s'accepte et on se rassemble.
On va revenir au désir et au bon compagnonnage avec soi, Nina Bouraoui. On va parler dans quelques instants de Greta Garbo, de notre prochain, des fantômes de la nature de Giacometti, de Gide, de la beauté, du Louvre, d'Étienne Dao, d'Aznavour, d'eau fraîche et d'amour, juste après un titre de Chris, alias Christine and the Queens, Five Dolls.
$5 baby blues, $5 baby.
Chers auditeurs, c'est l'émission où je fais plein d'erreurs. J'ai dit 5 dolls et c'est 5 dolls. Voilà, pardonnez-moi. Vous êtes sur France Inter dans Remède à la mélancolie avec une animatrice exténuée. Mais nous sommes en compagnie de Nina Bouraoui et ça, c'est une bonne nouvelle.
La tour Eiffel. Ah, votre doigt, s'il vous plaît.
Pourquoi en avez-vous besoin?
J'ai mal élevé de montrer du doigt. Voilà, la tour Eiffel.
Et où est-ce que nous sommes?
Où nous sommes? Laissez-moi chercher où nous sommes. Ah, nous sommes ici. C'est vous là, ici c'est moi. Contente?
Ce qui m'intéresse, c'est de connaître la distance qui sépare ces deux points. Faut-il que vous flirtiez?
Mon Dieu, rien n'y oblige, mais ça paraît naturel.
Surveillez-vous.
J'essaie.
Pour ma seule information, dois-je considérer vos avances comme un spécimen du folklore bourgeois?
Mademoiselle, c'est ce genre d'avance qui a fait de Paris ce qu'il est.
Vous semblez très sûr de votre charme, monsieur.
Mais il ne s'est rien produit qui soit de nature à ébranler ma confiance.
Exemple affreux de l'arrogance du mal capitaliste en société. Le sentiment de la supériorité du possédant fait de vous des monstres.
Ah, oh, une Russe. J'adore les Russes. Camarade, je me sens fasciné par votre plan quinquennal depuis 15 ans.
Votre espèce sera bientôt éteinte.
1939, Ninotchka d'Ernst Lubitsch avec Greta Garbo, qu'on entend là, hélas, en VF, parce que le temps que je traduise l'extrait en anglais, on serait arrivé à la fin de l'émission. Quelle est l'intrigue, Nina Bouraoui?
Alors, c'est un film qui fait vraiment partie des films de ma jeunesse. C'est l'histoire d'une commissaire soviétique qui arrive à Paris pour remettre un petit peu au pas trois autres commissaires qui sont là, en fait... Ils doivent vendre des bijoux pour acheter des machines agricoles et en fait, ils tombent sous le charme de Paris et de la liberté. Et donc, elle arrive et elle rencontre ce fameux Léon. Elle va tomber amoureuse de cet homme libre qui, lui, justement, ne veut pas vendre ses bijoux. Et en fait, c'est... Alors, Greta Garbo, à ce côté, elle avait ce physique un peu dur et puis elle joue très bien la commissaire soviétique et puis en fait qui va être happée par l'amour, par le bonheur justement et la liberté. C'est un film que Lubitsch a écrit avec Billy Wilder. C'est un film très drôle qui, bizarrement, que j'ai pu revoir tant de fois lorsque j'avais 18 ou 20 ans. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour la beauté glaciale qui se réveille après de Greta Garbo. C'est un film... Ça fait partie des films qui réchauffent. Voilà. Lorsqu'on est un peu triste, ça fait partie de... Pour moi, ce sont mes madeleines.
Parce que Nina Bouraoui, il y a quelque chose de frappant dans le personnage incarné par Greta Garbo, c'est qu'elle est très androgyne au début. Elle est une soviétique qui arrive pour remettre
très
au pas.
Très fermée, très dure.
Très fermée, puis habillée.
Très autoritaire. Et après, tout d'un coup, en tombant amoureuse, elle s'ouvre au plaisir, elle s'ouvre à la féminité. C'est sublime.
Et à cette phrase qui m'a frappée, c'est « Don't make an issue of my womanhood ». Ne faites pas un problème de ma féminité. C'est l'une des premières phrases qu'elle dit à son futur amoureux Melvin Douglas. Et je trouve ça très très beau. Adolescente, Nina Bouraoui, votre mère vous emmenait 4 fois par semaine au cinéma.
Oui, c'est vrai. On allait beaucoup au cinéma parce que ma mère est cinéphile, elle lit aussi beaucoup. Et c'est vrai que moi, mon premier métier, enfin, même si j'écrivais, j'ai écrit très jeune, je savais très tôt que j'allais écrire, mais j'étais quand même fascinée aussi par le cinéma et je pensais peut-être être réalisatrice un jour. J'aimais beaucoup raconter les histoires. Ce que je ne fais plus trop maintenant, parce que mes livres sont de plus en plus autobiographiques et je l'assume totalement. Je ne crois pas du tout. Peut-être que je ne suis pas du tout une romancière, mais je me sens plutôt comme une poétesse, un peu philosophe. Et j'ai ce fantasme toujours de me dire que je veux maintenant écrire la vie en train de se vivre. Et le cinéma, c'était aussi ça. Moi, j'ai connu le cinéma des années 70, des années 80. Patrick Devers, Catherine Deneuve, toujours, Deneuve est encore une idole. Et c'est vrai que ma mère m'a appris ça. Alors, aussi fuir le réel. Il y avait ce truc, c'est que quand on était à Paris, toutes les deux, nous formions un drôle de couple. Et nous avons souvent fui le réel dans les salles de cinéma qui étaient sous Beaugrenelle. Je crois que cette salle a fermé, hélas.
Mais il y en a une nouvelle maintenant.
Il y en a une nouvelle, voilà. Qui est plus en haut, je crois. Et oui, c'était... En fait, finalement, est-ce que je n'écris pas aussi, non pas pour fuir le réel, mais pour le restituer d'une autre façon, le réhabiter, le réparer, le réinventer?
Et puis Nina Bouraoui, vous avez une écriture qui est très charnelle, une écriture de sensation, comme au cinéma, où tous les sens sont stimulés.
Moi, ce que j'écris, je l'entends, je le vois,
le
ressens. J'ai jamais séparé la sensualité, le corps, des idées. Je crois que... Et c'est pour ça, souvent, je me suis dit que je n'étais pas du tout... pas une intellectuelle, mais parce que j'absorbais la lumière, j'absorbais les couleurs, et que j'ai toujours essayé de retranscrire la beauté ou la violence du monde, en tous les cas, avec toujours comme si mes mains saisissaient la lumière. Voilà, écrire, c'est saisir la lumière.
La suite symphonique de Prokofiev, l'année 41, pour la fraternité de l'homme. On l'a pris uniquement pour son titre et pour la beauté. Nina Bouraoui, c'est pour illustrer votre idée consolatoire. Mon prochain est mon ami. Est-ce que vous l'avez toujours pensé ou vous avez dû vous en persuader?
Je crois que j'ai toujours pensé. Ma seule arme, c'est la douceur. J'ai très peur de la violence. J'ai grandi dans un pays d'une violence extrême. Je trouve que aujourd'hui, cette violence revient depuis plusieurs années dans le monde entier. Et puis, je pense que les attentats m'ont reconnecté à la décennie noire en Algérie, les années 90. Et je crois que la seule façon, non pas de l'accepter, parce que la violence est inacceptable, mais peut-être de la détourner, dévoyer, de l'embellir, est la douceur. Et je crois que, vous savez, c'est très bizarre avec ce livre, il s'est produit des choses étranges et très fortes, parce que je suis allée en parler dans les villes, en France. Et puis, parfois, un public qui n'était ni homosexuel, qui n'avait parfois aucun rapport avec l'Algérie, ou alors un rapport conflictuel, notamment dans le Sud. J'ai rencontré de nombreux pieds noirs. Et par cette douceur-là, nous avons vraiment créé une sorte de communauté fraternelle. C'est-à-dire qu'à la fin des conférences, chacun m'a pris dans ses bras et je pense que j'ai converti peut-être plus d'un homophobe, parce que finalement le rejet, la violence, c'est l'ignorance. Et lorsqu'on explique et quand on exprime les choses avec douceur, je pense qu'on les entend mieux, on les accepte mieux. La douceur devrait entrer dans le langage politique. Je trouve le langage politique trop commandeur, trop donneur de leçons. Il faudrait inculquer, donner des leçons de douceur à nos dirigeants.
C'est un joli programme. Et en attendant, peut-être commencer par des lectures. Nina Bouraoui, vous avez une double culture, catholique et musulmane, et vous vous qualifiez d'un peu mystique et vous avez lu tous les textes sacrés. Je pense autant au Coran qu'au Nouveau Testament. Il y a cette injonction à aimer son prochain, à s'en faire un ami. Déjà, est-ce que ça vous a influencé? Et deuxièmement, est-ce que vous faites confiance d'office à l'autre?
J'essaye parce qu'en tant qu'ancienne sauvageonne, c'est compliqué, la confiance, parce qu'il y a toujours le risque de la trahison, le risque de la déception. Mais j'ai été élevée dans un milieu, en effet, mon père est musulman, mais il nous a jamais forcés. Ma mère est catholique de nom, mais c'est une anarchiste, ma mère. Dieu n'existe pas. En revanche, moi, j'ai fait la rencontre de Dieu seule, parce qu'on n'en parlait pas trop à la maison. On était assez libre avec ma sœur. Et lorsque je suis allée à la Sécrème, j'ai découvert le refuge du père de Foucault, avec tous ses petits pères et ses petites sœurs qui ne faisaient pas du tout d'évangélisation, mais plutôt qui soignaient les villageois, qui apprenaient à lire et à écrire parfois aux jeunes enfants. Et au centre du désert, il y avait une sorte de petite chapelle tenue par des sœurs qui gardaient les écrits de Foucault. Et il y a eu une sorte de télescopage entre la beauté du désert, l'infini du ciel et la découverte de Dieu. Mais d'un Dieu qui est à moi, qui est pour moi Dieu, c'est la nature.
C'est ça, c'est un peu comme Spinoza, je me permets de le citer parce que vous avez fait des études de philosophie.
Mais j'étais un cancre.
D'accord, bah alors nous sommes deux. Dieu est dans la nature pour vous.
Moi, je le ressentais ainsi. J'en avais la preuve tous les jours parce que l'Algérie est un pays, certes, brutal, comme une sorte de sac d'épines, mais d'une beauté hallucinante, fracassante, mystique, envoûtante. Dont je ne me suis jamais remise.
Je Que l'auditeur qui nous accuse d'avoir des gros sabots nous jette la première pierre. Aïe, 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 arrêtez, le générique du film SOS Fantôme par Ray Parker Jr. Puisque j'ai pris Nina Bouraoui, l'une de vos idées anti-spleen, littéralement, c'est croire aux fantômes. Alors je voulais vous demander quel fantôme, puisqu'on peut considérer aussi les idées comme des fantômes. Chaque livre, c'est faire émerger un fantôme en quelque sorte. Et puis il y a les fantômes, les apparitions surnaturelles, les revenants. Je pense à dans Tous les hommes désirent naturellement savoir, ce roman est traversé de fantômes.
Oui, moi je crois aux fantômes, hein. Ça me rassure. Les revenants, les fantômes de l'amour aussi. Je crois, j'aime beaucoup me dire que nous sommes constitués d'un passé et que nous sommes aussi constitués du passé de nos ancêtres. Alors, c'était aussi tout l'enjeu du livre. La question était de savoir est-ce que la liberté existe. Et finalement, lorsque j'ai achevé l'écriture de ce livre, je me suis aperçue que la liberté n'existait pas parce que nous sommes tributaires d'un héritage parfois qui ne nous appartient pas. Alors on a toute la vie pour s'en défaire. Il y a parfois la psychanalyse qui peut aider, mais l'écriture aussi, ou tout simplement tomber amoureux. L'amour délivre peut-être aussi... L'amour délivre peut-être de nos liens aux autres, je ne sais pas. Alors pourquoi est-ce qu'on aime une personne plutôt qu'une autre ? Nous sommes faits de cet héritage-là, mais avancer dans le temps, quand même, on se défait de ces casseroles. Et pourquoi moi je crois aux fantômes ? Parce que cela adoucit l'idée de la mort.
Et vous êtes phobique de la mort, Nina Bouraoui, c'est
oui,
ce que
moi
vous
dites. Et vous savez, la mort de ceux que j'aime et ma propre mort, je veux pas quitter la fête, je supporte pas cette idée, je déteste cette idée et c'est l'infini. L'infini est quelque chose, est une espèce d'abîme. Alors je ne pense pas à la mort tous les jours, sinon je serais malade, mais je crois que la littérature a été une façon aussi de contrer la mort, non pas de laisser quelque chose, c'est pas du tout ça, je ne suis pas égocentrique et je ne suis pas naïve à ce point, je pense que rien ne nous survit, mais en revanche, il me semble que lorsque j'écris, je suis en contact avec un autre monde, je suis très lucide, je travaille beaucoup, je suis très concentrée, et alors, est-ce que c'est un état d'hypnose? Je ne sais pas, mais je sais que mes livres, on dit que souvent les écrivains sont des médiums. Moi, je sais que je peux savoir parfois certaines choses avant les autres. Je les sens. Est-ce que c'est ma sensibilité ? Je viens d'Algérie. Les djinns, les apparitions. Nous avons fait beaucoup de spiritisme lorsqu'on était enfant avec ma sœur, par ennui, souvent.
Ça a fonctionné ? Vous avez eu des...
Bien sûr que ça a fonctionné. Nous avons vu des fantômes, nous avons entendu des fantômes. Et puis, il est arrivé quelque chose de très étrange. Il y a quelques années, mon grand-père français est encore en vie, il a 105 ans. Il vit toujours dans cette grande maison de Rennes, où moi j'ai passé beaucoup de vacances. Et avant de partir, j'étais avec ma mère, et avant de partir, j'ai pris en photo la maison, qui est une grande maison qui a de plusieurs étages. Et puis sur mon iPhone, en rentrant chez moi, en regardant les photographies, je me suis aperçue qu'il y avait quelqu'un à la fenêtre. Et j'ai zoomé, et en fait, c'est très bizarre, parce que avec l'iPhone, on sait qu'on fait plein de photos. Et puis, la photo d'avant, il y a une forme noire. La photo du centre, il y a vraiment un visage qui apparaît. Il ressemble tellement à ma grand-mère. Et la troisième photo, il n'y a plus rien. Et depuis cette apparition, je suis beaucoup plus confiante. Et il y a... oui, j'adore, je trouve ça très ludique de croire aux revenants.
Je viens de repenser au tour d'écrou, cette nouvelle d'Henry James sur les fantômes, où en fait, on a... toutes les interprétations possibles, que je recommande aux auditeurs s'ils ne l'ont pas lu.
Find another love. things to do. What if I had been a fool and thought I was in love with you? I need to grow and find myself before I let somebody love me. 'Cause at the moment I don't know me. We all want a teenage fantasy. Want it when we can't have it. When we got it, we don't seem to want it.
Vous venez d'écouter Teenage Fantasy de Georgia Smith. Vous écoutez Remède à la mélancolie sur France Inter et nous sommes toujours en compagnie de l'écrivain Nina Bouraoui.
Les lettres que j'ai reçues au sujet de mes nourritures terrestres, par la suite, beaucoup plus tard. Parmi ces lettres, celles qui m'ont, je dirais presque de beaucoup le plus touché, sont des lettres de convalescents, des lettres datées de sanatoriums, de malades qui précisément ne pouvaient pas jouir de la vie, des lettres de gens dénués. Eh bien, cela m'a fait penser que mon livre avait atteint son but.
André Gide au micro de Jean Amrouche en 1949 sur la RTF. Nina Bouraoui, vous avez choisi Les nourritures terrestres, publié en 1897, un texte sensuel, lyrique, exalté, qui célèbre l'instant, le corps, ça ne m'étonne pas de vous, le désir, la nature, la ferveur, la sensualité, la beauté, à un hymne panthéiste, un guide de conduite aussi. Et je pense à cette phrase pour entrer en matière, ne désire jamais, Nathanaël, c'est celui à qui il s'adresse, regoûter les eaux du passé. Et vous, Nina Bouraoui, je sais que vous avez une grande mémoire. La mémoire, ça favorise la nostalgie.
Oui, ah oui, totalement. Oui, j'ai une mémoire photographique, j'ai une sorte d'hypermnésie. Je me souviens des décors, des odeurs, des situations, de tout ce qui a pu parfois se dérouler aux yeux de personnes qui voulaient peut-être pas voir. Donc je suis un témoin aussi, je suis un témoin des histoires. Je suis là pour rapporter le passé. Je le déforme pas trop. Dans mes livres, tout est à peu près vrai. Alors après, évidemment, ça passe aussi par le prisme du fantasme, mais j'ai une mémoire très précise, souvent encombrante. Mais est-ce que ce n'est pas les grands mélancoliques qui ont une mémoire un petit peu encombrante? Mais pour moi, c'est une matière, la mémoire, c'est extraordinaire. Pour un écrivain, la moitié du travail est fait.
Nina Bouraoui, dans votre dernier livre, Tous les hommes désirent naturellement savoir, il y a cette phrase qui entre en parfaite résonance avec le livre de Gide que vous avez choisi, c'est « Je suis portée par la beauté, la poésie, l'ordre sublime de la nature, c'est cela ma religion ».
Oui, c'est vrai.
Un petit mot sur Gide alors, sur comment vous avez vécu
ce texte. En fait, ce livre, c'est mon père qui me l'a offert, j'avais 18 ans, et c'est aussi un hymne à l'émancipation, devenir libre. Et je trouve, je me suis beaucoup identifiée au jeune Nathanaël. Et c'est vrai qu'il y a des résonances parce que la fin du livre est consacrée beaucoup à l'Algérie, aux villes algériennes et au désert. Et je trouve qu'il y a aussi des résonances avec Camus, qui est aussi une sorte de maître à penser pour moi. Et cette poésie, pour moi, c'est très... Alors, est-ce qu'on peut dire que ce sont des poèmes, les nourritures terrestres ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est une sorte de règle de vie. Nous ne devrions jamais nous éloigner de la beauté. En dépit de parfois, souvent, la laideur du monde. Jamais.
Et toujours regarder les choses avec un regard nouveau, comme si on les découvrait pour la première fois.
Ah, mais toujours, je crois que c'est le secret de la jeunesse éternelle.
Vous y arrivez, Nina Bouraoui?
Je crois que moi, j'essaie de... Je lutte. Je lutte, j'ai une lutte absolue contre l'aigreur, la rancune, les habitudes. Moi, je ne sais rien. Plus j'avance, je ne veux pas savoir. Je trouve qu'on est toujours... On doit toujours apprendre de soi, des autres, du monde. Nous devons toujours être dans la surprise de l'autre, dans la surprise du monde, ne jamais être blasé. Moi, j'ai une passion, non pas, je ne regrette pas ma jeunesse, je préfère avoir 51 ans aujourd'hui que mes 20 ans d'hier, mais j'ai toujours cette intrépidité et ce côté espiègle, je ne le perds pas, et c'est peut-être ça qui maintient... les yeux grands ouverts sur ce monde.
Nina Bouraoui, est-ce que vous ouvriez vos yeux sur un extrait des nourritures terrestres?
Oui, bien sûr. Et c'est drôle parce que c'est Blida. Et Blida est une région en Algérie à 50 km d'Alger où nous allions souvent avec ma mère visiter un grand peintre qui s'appelait Baya, qui était une amie de ma mère. Et c'est la cité des roses. C'est splendide. Alors, mars 1895, Blida, fleur du Sahel. Dans l'hiver sans grâce et fané, au printemps, tu m'as paru belle. Ce fut un matin pluvieux, un ciel indolent, doux et triste. Et les parfums de tes arbres en fleurs erraient dans tes longues allées. J'ai d'eau de ton calme bassin, au loin, les clairons des casernes. Voici l'autre jardin, bois délaissé, où lui, faiblement, sous les oliviers, la mosquée blanche, bois sacré, ce matin, vient s'y reposer ma pensée, infiniment lasse et ma chair épuisée d'inquiétude, d'amour. De vous avoir vu l'autre hiver, je n'avais pas idée, liane de vos floraisons merveilleuses, glycine violette entre les branches balancées, grappes comme des encensoirs penchés et pétales tombés sur l'or du sable de l'allée. Bruit de l'eau, bruit mouillé, clapotis au bord du bassin, olivier géant, spirée blanche, bosquet de lilas. Touffes d'épines, buissons de roses, y venir seul et s'y souvenir de l'hiver et s'y sentir si là que le printemps, hélas, même ne vous étonne et même désirer plus de sévérité, car tant de grâce, hélas, invite et rit au solitaire et ne se peuple que de désirs, cortège obséquieux dans les vides allées. Et malgré les bruits d'eau dans ce bassin trop calme, autour, le silence attentif indique par trop les absences.
Les sensuelles nourritures terrestres de Gide, lues par vous, Nina Bouraoui.
La sculpture doit-elle traduire le mouvement? C'est curieux qu'une sculpture gréco-romaine est généralement mouvement, n'est-ce pas? Ils cherchent à donner une illusion de la vie en introduisant le mouvement. Parce que s'ils faisaient leur sculpture immobile, ça serait vraiment un cadavre de savant mis debout, n'est-ce pas? Donc ils cherchent une illusion, mais ils la cherchent dans le simulacre du mouvement. Qui d'ailleurs me gêne toujours. Parce que un bras d'une sculpture gréco-romaine en l'air ou le disco ball, je voudrais qu'il baisse ses bras, qu'il finisse par s'asseoir.
L'artiste suisse Alberto Giacometti, dans le film de 1965, Couleur de ce temps, réalisé par Georges Charbonnier. Nina Bouraoui, vous avez choisi pour l'émission toute son œuvre, car je vous cite, tout semble se déplacer, être en mouvement et donc en vie.
Oui, première fois, j'avais 4 ans, je découvre L'homme qui marche dans un musée et je demande à ma mère de me l'acheter.
C'est pas tout possible. Simplement.
Et je trouve, c'est fascinant parce qu'il le dit très bien, une sorte, tout est en vie, ces sculptures sont en vie, elles semblent toujours se déplacer et elles sont souvent penchées vers l'avant. Je trouve que c'est voilà, l'homme qui marche, c'est l'avenir, c'est la projection, c'est la confiance en l'avenir, c'est l'énergie. Et je me suis identifiée enfant et je me souviens que j'avais un catalogue à Alger de Giacometti et j'ai adoré essayer d'un peu de le copier, parce que moi je faisais pas mal de sculptures et de poterie et de dessins. Et Giacometti m'a beaucoup inspirée parce qu'il y a une sorte de naïveté, il y a une simplicité, il y a une sorte d'épure, ce qui est, je trouve, le plus difficile à faire, même dans l'écriture.
Et justement, pour faire un parallèle avec l'écriture, Nina Bouraoui, Giacometti disait que plus on s'approchait, plus la chose dont on s'approchait s'éloignait. Vous, qui avez pour ambition de décrire le réel, de vous en approcher de plus en plus, est-ce que vous sentez aussi qu'il s'éloigne ?
Je ne sais pas. On l'embrasse, le réel, mais il vous échappe toujours. Moi, j'ai le souci dans l'écriture d'avoir l'écriture la plus parfaite possible, mais chaque livre met en question l'autre livre. Et c'est pour ça que c'est ainsi qu'on construit ce que je nomme cet édifice amoureux. J'essaye de trouver l'écriture idéale, la plus juste, la plus vraie, celle qui pulse, celle qui donne la pulsation du cœur, mais celle aussi qui éclaircit et qui donne les idées les plus claires, en tous les cas qui les restitue. De plus en plus, mes livres sont des livres de paroles, mais pas de paroles que je vais asséner. Je ne suis pas du tout une donneuse de leçons. Mais je pense qu'aujourd'hui, et ce livre m'a beaucoup appris, il me semble que j'ai un devoir peut-être de restituer ma vision du monde à travers la personne que je suis, c'est-à-dire métisse, femme, homosexuelle. Je crois que il faut le faire. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire dans ce livre, mais ce livre est encore tourné vers l'enfance, parce que l'enfance a été longtemps non pas une béquille, mais en tous les cas mon champ d'action, mon champ de mémoire aussi. Et aujourd'hui, l'adulte que je suis va continuer cette parole, justement. Voilà, c'est ça, c'est l'homme qui marche, mais c'est le livre qui marche aussi.
Et justement, votre premier antidote musical, Nina Bouraoui, ça pourrait faire partie de la bande originale de votre dernier roman, justement, s'il y en avait une. C'est Sortir ce soir, d'Étienne Dao.
Club, paradis pour tous ceux qui cherchent Dieu sait qui, Dieu sait quoi.
Joie, à la déception, aux folies de la nuit, à la brutalité du jour qui nous fera dire « On s'est menti, rentrons chez nous, cassés de fatigue et d'alcool ». Je viens de lire un extrait de « Tous les hommes désirent naturellement savoir » votre dernier livre, Nina Bouraoui. Chers auditeurs, vous écoutez Remède à la mélancolie sur France Inter et on vient d'entendre un titre de 1984 sortir ce soir, Étienne Dao. C'est le premier disque Nina Borowiec que vous avez acheté adolescente et je disais que ça pouvait être la BO de Tous les hommes désirent naturellement savoir.
Oui, parce que la fête, la nuit, lorsqu'on est adolescent, c'est un territoire très excitant, très attrayant. C'est une façon d'oublier sa tristesse du jour, parce que lorsqu'on a 18 ans et que l'on est homosexuel et qu'on est obligé de raser les murs lorsqu'on va dans ce club qui s'appelait le Katmandou, qui était rue du Vieux-Colombier. Il y a quelque chose à la fois de violent et de mensonger. La nuit est une forme de simulacre, mais aussi la légèreté. Alors, la chanson d'Étienne Dao, elle est beaucoup plus légère que ces soirées à la fois violentes, mais tellement nourrissantes au Katmandou. Moi, je pense que j'y ai appris... aussi mon métier quand même, parce que j'étais un témoin, encore une fois. J'ai regardé, j'ai fréquenté des personnes qui n'avaient pas du tout mon âge, qui étaient beaucoup plus âgées, j'étais la plus petite, de milieux sociaux totalement confondus, des femmes que je n'aurais jamais rencontrées au grand jour, des avocates, des médecins, des prostituées, des anciennes détenues. J'avais la sensation, non pas de faire une bêtise, mais d'être en délinquance, ce qui est d'ailleurs assez triste, de vivre son désir ainsi. Mais dans les années 80, pour les femmes, c'était encore compliqué, parce que je crois que même dans les minorités, les hommes avaient la mainmise, contrairement aux femmes, qui étaient encore dans les geôles de la honte.
La baraka, c'est quand tu es entre mes bras que tu souris. La baraka, c'est notre vie que l'on brûle avec insouciance. La baraka, c'est rien que toi et rien que moi dans l'existence. Et nuit et jour quand tu es là, c'est notre amour, la baraka, c'est quand tu es entre mes bras que tu souris. La baraka, c'est notre vie que l'on brûle avec insouciance. Maraca,
1974, La Baraka d'Aznavour, un autre de vos choix, Nina Bouraoui, qui écrivait aussi des chansons pour les autres. Vous avez été parolière pour le groupe Les Valentins, pour Céline Dion, Garou ou Sheila. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce titre?
C'est la joie, c'est la légèreté, c'est le titre que l'on doit absolument écouter, soit pour ouvrir une soirée ou soit pour l'achever. C'est
la bénédiction
la baraka,
en arabe.
C'est la porte-chance.
Alors, je ne sais pas si on peut faire une transition de la baraka à cela, mais oui, si jamais cette idée est réalisable dans la vie. Mais Nina Bouraoui, il y a une citation célèbre que vous avez choisie, qui est « Vivre d'amour et d'eau fraîche ». Alors, je ne sais pas ce qu'elle signifie pour vous, je ne sais pas si vous arrivez à l'appliquer concrètement.
Quand je parle d'amour, je parle bien sûr, je parle de la femme que j'aime, je parle de ma meilleure amie, je parle de l'amitié en général et je parle aussi de l'amour en général. Je crois que l'amour nous instruit, l'amour nous rend meilleur, l'amour nous rend plus beau. C'est un peu bête hein, de dire ça, mais j'en reste convaincue. Tomber amoureux est le seul instant où justement la mort n'existe plus, la faim n'existe plus, la soif n'existe plus. Et puis l'eau fraîche, c'était c'était pour reprendre cette citation, je trouve, moi qui suis souvent dans la gravité, j'aspire à tant de légèreté et j'adore la légèreté. Je suis quelqu'un, contrairement à ce que pourraient faire penser mes livres, je suis quelqu'un de très joyeux. Voilà, j'ai certainement cette mélancolie, mais je disais tout à l'heure cette mélancolie joyeuse, mais la joie, elle est amoureuse, elle est amicale. Danser, rire, raconter n'importe quoi, ne jamais se prendre au sérieux.
Merci beaucoup Nina Bouraoui d'être venue dans cette émission.
Merci infiniment.
Je rappelle le titre de votre dernier roman, Tous les hommes désirent naturellement savoir, c'est aux éditions Lattès. Chers auditeurs, la programmation musicale Les Remèdes sont sur le site de l'émission comme toujours. J'espère que votre âme est aussi exaltée qu'un biscuit clignotant. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h.